Charles et Mary Lamb, conte tiré de Shakespeare, Le roi Lear. Lear, roi de la Grande-Bretagne, avait trois filles. Deux d'entre elles, Goneril et Regan, avaient épousé l'une le duc d'Albany, l'autre le duc de Cornwall. À l'époque où commence ce récit, le roi de France et le duc de Bourgogne étaient les hôtes de Lear et prolongeaient chez lui leur séjour pour mieux faire la cour à la charmante Cordélia, dont tous deux s'étaient vivement épris. Lear était alors plus qu'octogénaire. Brisé par l'âge et les soucis du trône, il résolut tout à coup de ne plus prendre part aux affaires de l'État et d'en laisser le gouvernement à des mains plus jeunes et plus fortes. Il aurait ainsi le temps de se préparer à la mort qui ne pouvait tarder à venir. Il manda donc près de lui ses trois filles et voulut savoir de leur propre bouche quelle était celle dont il était le plus aimé, afin de donner à chacune la part d'héritage que semblerait mériter le degré de piété filiale qui l'animait. L'aîné, Goneril, déclara que la parole était impuissante à exprimer la tendresse qu'elle avait pour son père. Il lui était plus cher que la lumière de ses propres yeux, plus cher que la vie et la liberté. Longtemps, elle se répandit en ces pitoyables protestations du dévouement, qui ne sont que la facile contrefaçon d'un amour absent, et se réduisent à quelques brillantes tirades débitées avec l'assurance nécessaire en pareil cas. Ravi de ces beaux discours qu'il croyait venir autant du cœur que des lèvres de Goneril, le roi, dans un élan de paternelle affection, lui fit don, à elle et à son mari, du tiers de son vaste royaume. Puis il demanda à sa seconde fille ce qu'elle avait à dire. Aussi fausse que sa sœur, Regan ne lui céda en rien pour la chaleur de ses démonstrations. Bien au contraire, elle affirma que les belles phrases de celle-ci n'allaient pas à la hauteur de l'ineffable amour qu'elle portait à son Altesse. « Toutes les joies de la terre, disait-elle, ne sont pour moi que supplices comparées à celles dont m'inonde mon adoration pour mon bien-aimé père et roi. » Lear se félicita d'avoir ce qu'il croyait être la perle des enfants affectueux et crut ne pouvoir moins faire, en présence de si touchantes déclarations, que d'abandonner à Regan et à son époux un tiers de son royaume, égal en étendue à celui qu'il venait de donner à Goneril. Se tournant alors vers Cordélia, qu'il appelait le soleil de sa vie, il la pria de prendre la parole. Elle allait, pensait-il, réjouir les oreilles de son vieux père de la même délicieuse musique que ses sœurs. Elle les surpasserait même en exaltation, car elle avait toujours été la gâtée de son cœur. Mais les grossières flatteries de ses sœurs avaient singulièrement déplu à Cordélia. Elle savait combien leur cœur était loin de leurs lèvres. Elle comprenait que leur cajolerie n'avait d'autre but que de déposséder le vieux roi et de régner avant sa mort avec leur mari. Et elle répondit tout simplement qu'elle aimait Sa Majesté dans la mesure de son devoir, ni plus ni moins. Blessée de ce qu'il considérait comme de l'ingratitude de la part de sa fille favorite, le roi l'engagea à peser ses paroles et à les modifier si elle ne voulait pas compromettre son avenir. « Vous êtes mon père, répondit la jeune fille. Vous m'avez nourri et aimé. Moi aussi je vous aime de mon mieux. Je vous obéis et vous honore. Mais je ne puis, comme mes sœurs, adapter mes lèvres à de pompeux discours, ni promettre de n'aimer que vous au monde. » Si, comme elles le disent, mes sœurs n'ont d'affection que pour leur père, pourquoi chacune d'elles a-t-elle pris un époux? Si jamais je me donne un maître, il exigera, j'en suis sûr, la moitié de ma tendresse, de ma sollicitude et de mon dévouement. Jamais je ne me marierai pour n'aimer, comme mes sœurs, que mon père seul. En réalité, Cordélia aimait son vieux père à la folie. En tout autre moment, elle le lui eût dit sans phrase, avec toute la chaleur d'une âme profondément aimante et sans toutes ses restrictions évidemment peu gracieuses. Mais en présence des artificieuses adulations de ses sœurs, qu'elle voyait récompensées par son père de si extravagantes façons, elle s'était dit que le mieux était d'aimer et de se taire. Elle échapperait ainsi à tout soupçon d'affection mercenaire. Moins elle mettait d'ostentation à protester de son amour filial, plus celui-ci se distinguerait de celui de ses sœurs par son éclatante sincérité. Il n'en fut rien. Lear ne vit dans cette franche simplicité de langage qu'un intolérable orgueil. Même en ses meilleurs jours, il s'était toujours montré violent et inconsidéré dans ses colères. Aujourd'hui que la vieillesse obscurcissait encore sa raison, il était moins capable que jamais de distinguer la vérité de la flatterie et les phrases fleuries du fourbe du langage vrai du cœur. Dans sa fureur, il priva Cordelia du tiers de royaume qu'il lui avait réservé et le partagea également entre ses deux autres filles et leurs époux, les ducs d'Albany et de Cornwall. Puis il fit venir ces derniers devant lui et, en présence de toute sa cour, leur donna le diadème en commun et les investit conjointement de toute son autorité. Désormais, ils administreraient les revenus de l'État. Le pouvoir exécutif leur était dévolu et Lear ne conservait que le titre de roi. Il ne gardait pour toute prérogative royale que le droit d'habiter tour à tour pendant un mois les palais de ses deux filles avec 100 chevaliers attachés à sa personne. Grands furent l'étonnement et le chagrin de ses courtisans en le voyant disposer si follement de son royaume sous l'influence d'un emportement où la raison n'avait nulle part. Mais ils n'eurent pas le courage de s'interposer entre le monarque et sa colère. Seul le comte de Kent osa prendre la parole en faveur de Cordelia. L'impétueux Lear lui ordonna aussitôt, sous peine de mort, de renoncer à ce dessein, mais le brave duc n'était pas homme à reculer devant pareille menace. « J'ai toujours été loyal envers votre majesté, dit-il. Je vous ai honoré comme roi, aimé comme père, suivi comme maître. Je n'ai fait cas de ma vie que parce que je pouvais la vendre chèrement à vos ennemis. Jamais je n'ai craint de mourir quand il s'agissait de vous sauver. Aujourd'hui que vous me traitez vous-même en ennemi, je ne puis, serviteur fidèle, oublier mes principes d'autrefois. Je dois, en homme de cœur, m'opposer à vos desseins pour le plus grand bien de mon roi. Si j'ai manqué d'égard, c'est que vous manquiez de sang-froid. Je fus longtemps pour vous un conseiller fidèle et sûr, et je supplie maintenant votre majesté de voir par mes yeux, comme elle l'a fait maintes fois en de graves circonstances, et d'agir d'après mes conseils. Réfléchissez, tandis qu'il en est temps encore, et révoquez des dispositions aussi néfastes que téméraires, car, j'en réponds sur ma vie, votre fille cadette n'est pas celle qui vous aime le moins. Et cela ne manque pas de cœur qui parle sans emphase comme sans hypocrisie. Quand le pouvoir souverain s'incline devant la flatterie, l'honneur se doit de rester simple et franc. Quant à vos menaces, que pouvez-vous me faire? Ma vie n'est-elle pas déjà à votre service? Mon devoir était de parler. La crainte de la mort ne pouvait m'empêcher de le remplir. Cette noble indépendance du comte de Kent ne fit que porter à son comble l'indignation du roi. Comme un malade furieux qui tuerait son médecin par amour du mal qui doit l'emporter, il bannit de ses états ce dévoué serviteur et ne lui donna que 5 jours pour faire ses préparatifs de départ. Si le 6e jour trouvait sur le sol de la Grande-Bretagne sa personne abhorrée, c'en était fait de lui. Kent fit donc au roi ses adieux. « Aussi bien, s'écria-t-il, demeurer ici en présence de telles dispositions de mon roi serait un véritable bannissement. Oh Dieu, protégez Cordelia! Prenez sous votre égide cette jeune fille à la pensée si droite, au langage si discret. Puissent les pompeux discours de ses sœurs être suivis d'actes d'amour. Et maintenant je pars et vais porter ma douleur sur la terre de l'exil. » Ce fut alors le tour du roi de France et du duc de Bourgogne d'apprendre la singulière détermination du roi Lear. Persisterait-il à courtiser Cordelia, maintenant qu'elle avait encouru la disgrâce de son père, et n'avait plus pour toute dot que ses attraits personnels? Le duc de Bourgogne refusa net de l'épouser dans de pareilles conditions. Mais le roi de France comprit vite que Cordelia n'avait perdu l'affection de son père que parce que sa langue n'avait pu se plier, comme celle de ses sœurs, aux exigences de la flatterie. « Vos vertus, dit-il à la jeune fille en lui prenant la main, sont une dot plus précieuse qu'un royaume. Prenez congé de vos sœurs et de votre père, bien qu'ils vous aient traité de façon peu généreuse. Venez avec moi, vous serez ma reine et celle de la belle France, et vous régnerez sur un plus beau royaume que celui de vos sœurs. » Et dans son mépris, Il compara le duc de Bourgogne à un tonneau percé, d'où s'était échappé en un instant tout l'amour qu'il prétendait avoir pour cette noble enfant. Les yeux pleins de larmes, Cordelia prit congé de ses sœurs et les supplia de bien aimer leur père, selon la promesse qu'elles en avaient faite. « Nous connaissons notre devoir, » répliquèrent celles-ci avec humeur, « et n'avons nul besoin de vos leçons. Tâchez vous-même de plaire à votre mari, qui vous a prise, » ajoutèrent-elles d'un air moqueur, « pour l'amour de Dieu. » Cordelia s'en alla le cœur gros, car elle connaissait la duplicité de ses sœurs et eût désiré laisser son père en de meilleures mains. Elle n'était pas plutôt partie que celles-ci montrèrent sous leur vraie couleur les diaboliques dispositions qui les animaient. D'après les conventions que nous avons indiquées, Lear devait passer un mois tour à tour chez ses filles. Il demeura tout d'abord avec son aîné Goneril. Mais le mois n'était pas encore écoulé que le vieux roi comprit combien promettre et tenir font deux. Maintenant qu'elle avait obtenu de son père tout ce qu'il pouvait donner, même sa couronne, cette misérable lui enviait les quelques miettes de royauté que le vieillard s'était réservées pour se faire accroire qu'il était encore roi. Elle ne pouvait souffrir de le voir, lui et ses 100 chevaliers. Chaque fois qu'elle le rencontrait, elle prenait un air renfrogné. S'il désirait lui parler, elle se disait malade ou empêchée pour se débarrasser de sa présence. Il était clair qu'elle considérait sa vieillesse comme un fardeau inutile et ses gens comme une dépense à supprimer. Et non seulement elle se relâcha de son respect extérieur pour le roi, mais, se conformant à son exemple, et nous le craignons bien, à ses instructions secrètes, ses propres serviteurs affectèrent de négliger le service de l'infortuné monarque, tantôt refusant d'exécuter ses ordres, tantôt poussant l'impudence, jusqu'à prétendre ne les avoir point entendus. Un tel changement dans la conduite de sa fille ne pouvait échapper au roi Lear. Mais comme il en coûte toujours de s'avouer que l'on a fait une sottise et que l'on est victime de sa propre obstination, il ferma les yeux aussi longtemps qu'il le put sur d'aussi déplorables inconvenances. L'amour vrai et la fidélité ne se laissent pas plus rebuter par les mauvais traitements que la duplicité et la bassesse de cœur ne se concilient par les bons. L'excellent comte de Kent fournit une preuve de plus de la vérité de cette maxime. Banni par Lear, certain de mourir s'il était découvert en Grande-Bretagne, il y demeura quand même, prêt à subir les conséquences de sa détermination héroïque tant qu'il verrait une possibilité d'être utile au roi son maître. Tout expédient, tout stratagème est bon à l'homme loyal. Pour lui, rien n'est abject ou vulgaire dès que le devoir réclame de lui quelque service. Kent n'hésita pas à revêtir la livrée d'un domestique et, dépouillé de tout l'appareil de son rang, il s'offrit à être l'humble serviteur de son roi qui ne le reconnut pas sous un tel déguisement. Mais Lear fut frappé de la franchise, ou plutôt de la brusquerie qu'affecta le comte dans ses réponses. Il trouva un certain plaisir à n'entendre plus les doucereuses sornettes de la flatterie, dont il avait tant de motifs d'être dégoûté après avoir trouvé, chez sa propre fille, les actes si peu conformes au discours. Il ne fut donc pas difficile à ces deux hommes de s'entendre, et Lear prit Kent à son service, sous le nom de Caius qu'il s'était donné, sans jamais soupçonner que ce nom cachait son illustre favori d'autrefois, le haut et puissant comte de Kent. Caius ne fut pas longtemps à trouver l'occasion de prouver à son maître sa fidélité et son amour. Le premier jour ne s'était pas écoulé qu'il vit l'intendant de Goneril, encouragé secrètement sans doute par sa maîtresse, manquer de respect à Lear et regarder insolemment le vieillard, tout en lui parlant comme à un valet. Devant un pareil outrage à la majesté royale, Caius ne fit aucun esclandre, mais tranquillement donna à l'impudent esclave un croc en jambe qu'il envoya s'étaler dans le chenil. Lear lui sut gré de cette correction et s'attacha de plus en plus à son nouveau serviteur. Kent n'était pas, d'ailleurs, le seul ami que Lear eut auprès de lui. Au temps où il avait encore un palais, il y entretenait, suivant la coutume des rois et des grands personnages de son époque, un de ses bouffons, connu sous le nom de fou, qui les divertissait après les affaires sérieuses. Or, lorsque le vieillard se fut dépossédé de sa couronne, le pauvre fou s'attacha quand même à ses pas et lui prouva son amour autant que le pouvait un personnage aussi insignifiant et d'aussi bas étage. Par ses amusantes saillies, il tenait son maître en bonne humeur, bien qu'il ne se gênât nullement parfois de plaisanter sur l'imprudence qu'il avait commise en se découronnant lui-même et en donnant tout à ses filles. « Chacune d'elles, s'écriait-il alors en rimaillant, soudain pleura de joie à si riche recette, et moi je chante de courroux, de voir un roi si bon jouer cligne-musette et grossir le troupeau des fous. » C'est dans de pareilles extravagances et dans des bouts de chansons, dont il savait des douzaines, que ce brave homme de fou laissait plaisamment déborder son cœur, même en présence de Goneril, qu'il piquait parfois très au vif par ses amères railleries. Ainsi, il comparait le roi au passereau qui nourrit les petits du coucou jusqu'à ce qu'il soit devenu assez fort pour lui abîmer la tête à coups de bec pour sa peine. Un âne, disait-il encore, voit bien, tout âne qu'il est, quand la charrue est avant les bœufs. Allusion mordante aux filles de Lear, plus haut placées maintenant que leur père. Lear, ajoutait-il, n'est plus Lear, il n'en est désormais que l'ombre. Une fois ou deux, il faillit être fouetté pour ses intempérances de langage. Mais l'indigne Goneril ne s'en tint bientôt plus à la froideur et aux allures irrespectueuses que Lear avait enfin remarquées. De bien autres déboires attendaient ce père et sa folle tendresse. Il lui fut dit nettement un jour que son séjour au palais devenait désagréable du moment qu'il insistait pour y maintenir une suite de 100 chevaliers. Une pareille suite, disait Goneril, est aussi inutile que coûteuse et ne sert qu'à scandaliser ma cour par de bruyantes débauches. Réduisez-la, je vous prie, et ne gardez auprès de vous que de vieux hommes d'armes plus en rapport avec votre âge. Tout d'abord, Lear n'en put croire ses oreilles. Était-ce bien sa fille qui lui tenait un tel langage? Elle, qui avait reçu de lui une couronne, voudrait diminuer son escorte et lui mesurer le respect dû à sa vieillesse? Il ne pouvait se faire à cette pensée. Mais elle insista, et la fureur du vieillard s'exhala en terribles imprécations. « Tu mens !» exclama-t-il, « détestable mégère !» Et elle mentait en effet, car les 100 chevaliers étaient tous d'une sobriété et d'une conduite irréprochables. Tous hommes de devoir et incapables de se livrer aux scandaleuses débauches qu'elle leur reprochait. « Qu'on prépare à l'instant mes chevaux, » ajouta-t-il. « Nous allons de ce pas, mes 100 chevaliers et moi, chez ma fille Regan. » Et il tempêta contre l'ingratitude, ce monstre au cœur de marbre, disait-il, plus horrible chez un enfant que le plus affreux des monstres marins. « Puisses-tu, tonna-t-il en maudissant sa fille aînée Goneril, puisses-tu n'avoir jamais de progéniture, ou, si tu en as, fasse le ciel qu'elle vive pour te rendre tous les dédains et tous les mépris dont tu as abreuvé ton vieux père. Tu sentiras alors combien plus pénétrante que la morsure du serpent est l'ingratitude de ceux qui nous doivent la vie. » À ce moment, le duc d'Albany, mari de Goneril, tenta de réduire dans l'esprit de son beau-père tout soupçon de connivence de sa part dans les mauvais procédés de sa femme. Mais Lear refusa de l'écouter, sauta en selle tout bouillant de rage, et partit avec sa suite pour le palais de sa seconde fille, Regan. Et tout à coup, devant la pensée du vieillard, se dressa l'image de Cordelia. Combien légère lui apparut alors la faute de cet enfant, si tant est qu'il y eut faute, en comparaison de la conduite de Goneril. Et il pleura, le pauvre père. Puis toute sa virilité se révolta à l'idée qu'une aussi indigne créature que Goneril eût assez d'empire sur lui pour le faire pleurer. Regan et son mari vivaient dans leur palais avec beaucoup de magnificence et d'éclat. Lear chargea son serviteur Caius de leur porter un message, les invitant à tout préparer pour sa réception et celle de son escorte. Mais Goneril l'avait sans doute devancé, car en même temps que Caius, arrivait à la cour de Regan un autre messager, porteur de lettres dans lesquelles Goneril accusait son père d'humeur fantasque et méchante et conseillait à sa sœur de ne pas recevoir chez elle l'escorte extravagante qu'il traînait après lui. Caius n'eut pas de peine à reconnaître dans cet envoyé son vieil ennemi l'intendant qu'il avait si cavalièrement châtié de son impudence envers Lear. Son aspect lui déplut, puis, soupçonnant ce qui l'amenait, il l'insulta, lui offrit de s'aligner avec lui, et, sur son refus, le battit comme plâtre. Cet être malfaisant, ce porteur de messages de haine, n'avait en vérité que ce qu'il méritait. Mais le bruit de la généreuse indignation de Caius vint aux oreilles de Regan et de son mari, et en dépit de son titre d'envoyé du roi, qu'il eût dû rendre inviolable, le pauvre comte fut mis au cep. Le premier spectacle qui frappa les regards de Lear à son entrée au château fut donc celui de l'humiliante posture imposée à son fidèle serviteur. Le roi augura mal, dès ce moment, de la réception qu'il attendait. Mais ce fut bien pis lorsqu'il demanda où étaient sa fille et son gendre. On lui répondit qu'ayant voyagé toute la nuit précédente, il ne pouvait le recevoir. Puis, comme il insistait impérieusement et sur un ton de colère, Regan et le duc de Cornwall vinrent à sa rencontre. Mais quelle ne fut pas sa surprise en les voyant accompagnés de l'odieuse Goneril, venue en personne pour conter ses griefs et exciter sa sœur contre le roi son père. Le vieillard, d'autant plus indigné que Regan tenait amicalement sa sœur par la main, demanda à Goneril comment elle pouvait, sans rougir de honte, affronter la vue de ses cheveux blancs. « Retournez chez Goneril, conseilla Regan, et vivez en paix avec elle. Licenciez la moitié de vos chevaliers et demandez-lui pardon. Vous êtes vieux et devez être prudent. L'heure est venue pour vous d'être gouverné et dirigé par des gens plus sages que vous ne l'êtes. Comment ? S'écria Lear. J'irai me jeter à genoux et mendier de ma propre fille vêtements et nourriture ? Mais ce serait le comble du ridicule. Une pareille soumission serait contre nature. Jamais je ne remettrai le pied chez elle, et je suis bien résolu à m'établir ici, moi et mes 100 chevaliers. Tu n'as pu oublier, ô ma Regan, que je t'ai donné la moitié de ma couronne, et tes yeux bons et doux n'ont pas le dur éclat de ceux de Goneril. Non, plutôt que de reprendre le chemin de sa demeure avec ma suite diminuée de moitié, je partirai pour la France et j'y demanderai une pension de prolétaire au roi qui a épousé ma Cordélia sans l'ombre d'une dot. Hélas, il se trompait en espérant être mieux traité par Regan qu'il ne l'avait été par Goneril. Il semblait, au contraire, que sa seconde fille voulut renchérir sur l'indigne conduite de sa sœur, car elle déclara que 50 chevaliers étaient, à son avis, beaucoup trop. 25 devaient amplement suffire. Le cœur presque brisé, Lear consentit alors à retourner chez Goneril. « Tes 50 doublent les 25 de Regan, dit-il. Ton affection pour moi vaut donc 2 fois la sienne. »« Vous vous méprenez, repartit Goneril. Je ne vois même pas la nécessité de 25 chevaliers, ni de 10, ni de 5, quand mes propres gens ou ceux de ma sœur sont à votre service. » Ainsi, c'était acquis, de ses 2 sœurs dénaturées, se montrerait plus cruelle envers son vieux père, autrefois si bon pour elle. Elle lui retirait un à un les quelques gardes du corps dont la présence indiquait encore qu'il avait été roi, et le roi d'un grand royaume. Non pas qu'il soit essentiel, pour être heureux, d'avoir une suite pompeuse, mais il est dur de ressembler à un mendiant lorsqu'on a été roi, et de se voir sans l'ombre d'un cortège quand on a commandé à des millions d'hommes. Et puis, c'était moins la suppression de son escorte et les inconvénients qui s'ensuivraient pour lui que l'ingratitude de ses filles qui perçait le cœur du pauvre vieux roi au point d'ébranler sa raison. Désabusé par ce double mauvais traitement, furieux de s'être si follement dépossédé de son royaume, il jurait, sans trop savoir ce qu'il disait, de tirer vengeance de ces abominables mégères et d'en faire des exemples qui frapperaient de terreur l'univers tout entier. Menace vaine que son bras désarmé était désormais impuissant à exécuter. La nuit vint pendant qu'il les proférait, et avec elle, une épouvantable tempête. Le tonnerre grondait, les éclairs sillonnaient les nues, et la pluie tombait à torrents. Mais rien n'ébranla la résolution de ses filles de refuser un asile à sa suite. Alors il demanda ses chevaux, et plutôt que de vivre sous le même toit que ses ingrates enfants, il préféra s'exposer à la fureur des éléments déchaînés. les gens entêtés, dire ces deux filles, ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes des malheurs qui les accablent justement. » Et là-dessus, elles le laissèrent aller et refermèrent sur lui leurs portes. Le vent soufflait avec furie. Pluie et tempête redoublaient d'intensité, mais le vieillard s'en alla bravement, moins ému de ces convulsions de la nature que de la rude indifférence de ses filles. Pendant de longues lieues, c'est à peine s'il rencontra un buisson. Et il marchait toujours, défiant les vents et le tonnerre, à travers de vastes plaines en friche, exposées par cette horrible nuit à toutes les rages de la tempête. Et, dans son désespoir, il commandait au vent d'emporter la terre au fond de l'océan ou de la submerger sous l'amoncellement de ses vagues pour qu'il ne restât plus trace d'un animal aussi ingrat que l'homme. À ce moment, Lear n'avait d'autre ami que son bouffon qui le suivait en dépit de tous ses malheurs. Mais le pauvre fou semblait vouloir terrasser l'infortuné à coups de bons mots et de joyeuses railleries. « Piètre nuit, disait-il, pour y tailler sa coupe. Votre Majesté ne ferait pas trop mal, ma foi, de retourner chez sa fille et de lui demander sa bénédiction. Mais moi, qui n'ai pour tout potage qu'un petit brin d'esprit, ouf, quelle pluie et quel vent! Il faut bien me montrer content, même si chaque jour est un long jour d'orage. Par ma bosse, ajoutait-il, voilà tout de même une fière nuit pour rafraîchir un orgueil de femme. » C'est dans cette singulière société que le brave et fidèle comte de Kent, toujours transformé en Caius, trouva celui qui jadis avait été un grand monarque. « Hélas, sire, lui dit-il, est-ce vous que je vois en ces lieux? Les êtres mêmes qui aiment la nuit n'aiment pas des nuits comme celle-ci. Devant ce formidable orage, les animaux se sont enfuis et cachés dans leurs tanières. L'homme, par nature, a horreur de ce qui l'afflige et l'épouvante. » Mais le roi, qui ignorait toujours le dévouement du comte, le remit vertement à sa place. « On ne ressent pas les petites douleurs, dit-il, au siège d'une grande maladie. Quand l'esprit est à l'aise, le corps peut être délicat à loisir, mais la tempête qui gronde sous mon crâne paralyse tous mes sens et ne me laisse de sensibilité qu'au cœur. » Et il se mit à discourir sur l'ingratitude. « C'est absolument, disait-il, comme si la bouche déchirait à belles dents la main qui lui porte la nourriture. Car pour les enfants, les parents sont tout, la nourriture comme les mains qui la supplient. » L'excellent Caius n'en persista pas moins à l'exhorter à ne pas demeurer exposé à l'orage. Lear consentit enfin à se réfugier dans une misérable cabane perdue au milieu des bruyères. Ce fut le fou qui y entra le premier, mais pour en sortir soudain à toutes jambes, suant la peur et criant qu'il avait vu un esprit. Vérification faite, l'esprit se trouva être un pauvre mendiant de Bedlam qui s'était glissé là pour y chercher un abri et avait horrifié le bouffon en lui parlant de diable. C'était un de ces malheureux lunatiques réellement aliénés ou feignant de l'être pour mieux extorquer la charité aux campagnards compatissants. Un de ces traînards de village qui s'intitulent « Pauvre Tom » ou « Pauvre Père Eugène » s'en vont soupirant, n'y a-t-il rien pour le pauvre Tom ? Montrent d'un air piteux leurs bras, qu'ils ont eux-mêmes mis en sang à l'aide d'épingles, de clous ou d'aiguillons de romarin, et à force de mutilations, de prières ou d'imprécations de fous furieux, arrachent quelque aumône à l'ignorance du paysan ému ou terrifié. À la vue de ce pauvre diable, si destitué de tout, qu'il avait à peine autour des reins de quoi couvrir sa nudité, Lear déclara qu'il devait être quelque malheureux père que sa folle tendresse pour ses filles avait réduit à cette extrémité. Il n'y avait, croyait-il, que des filles sans entrailles qui pussent faire d'un homme une pareille ruine. En attendant divaguer ainsi, le bon Caius comprit qu'il perdait l'esprit et que les mauvais traitements de ses filles le conduisaient réellement à la folie. C'est alors que la loyauté du noble comte s'affirma par des services autrement importants que ceux qu'il lui avait été donné jusqu'alors de rendre à son roi. Dès le point du jour, avec l'aide de quelques chevaliers demeurés fidèles, il conduisit son bien-aimé maître au château de Douvres, qu'il possédait comme comte de Kent, et où le grand nombre de ses amis lui assurait une influence indiscutée. De là, il s'embarqua pour la France, se rendit en toute hâte à la cour de Cordélia, et lui exposa en termes si touchants et sous de si vives couleurs les malheurs de son auguste père et l'inhumanité de ses sœurs, que, les yeux pleins de larmes, cette fille vraiment tendre et bonne supplia le roi son époux de lui permettre de s'embarquer pour l'Angleterre avec une force suffisante pour châtier ses sœurs et leurs maris et rendre son trône au roi son père. Cette requête lui fut aussitôt accordée, et bientôt elle débarqua à Douvres avec les troupes du roi de France. Pendant ce temps, Lear avait, on ne sait comme, échappé à la surveillance des gardiens auxquels l'avait confié le comte de Kent. Des gens de la suite de Cordelia le trouvèrent errant aux environs de Douvres dans la plus pitoyable condition. Bien fou cette fois, il remplissait l'air de ses chansons, portant sur sa tête une couronne qu'il s'était faite avec des brins de paille, des orties et autres herbes sauvages qu'il avait arrachées aux champs de blé. Cordelia brûlait du désir de revoir son père, mais sur l'avis des médecins, elle consentit à regret à attendre que le sommeil et quelques potions végétales eussent rétabli quelque peu l'équilibre dans ce pauvre cerveau détraqué. Grâce aux habiles praticiens, à qui la noble fille promit tout son or et tous ses joyaux s'il sauvait le vieux roi, Lear fut bientôt en état de paraître devant son enfant. Ce fut une émouvante rencontre. Quand le pauvre monarque put contempler à nouveau les traits de sa fille favorite, il se sentit inondé de joie, mais en même temps tout honteux des filiales caresses que lui prodiguait celle qu'il avait si durement rejetée dans sa folle colère pour une faute sans gravité. Si violente était la lutte de ces deux sentiments dans ce cerveau encore à moitié brisé par la folie, qu'il se rappelait à peine par moments qui il était ou qui lui parlait et l'embrassait si tendrement. « Oh ! Criait-il alors au témoin de cette scène touchante, par pitié, ne riez pas de moi si je me trompe en prenant cette belle dame pour ma fille Cordelia. » Et il tombait à genoux, suppliant son enfant de lui pardonner. Mais elle, la chère âme, était à ses pieds depuis longtemps, le priant de la bénir. « Ce n'est pas à vous, lui disait-elle, de fléchir le genou. C'est à moi, votre enfant, votre seule vraie fille, votre fidèle Cordelia. » Et elle l'embrassait avec effusion. Elle eût voulu, disait-elle, effacer par ses baisers tout souvenir de l'inhumanité de ses sœurs. Les malheureuses, elles devraient rougir de honte d'avoir jeté dehors leur vieux père au mépris de ses cheveux blancs. Par une si terrible nuit, elle eût laissé se chauffer près de son foyer jusqu'au chien de son ennemi, quand bien même, ajoutait-elle avec grâce, ce chien l'eût mordu jusqu'au sang. Mais elle était là maintenant, lui apportant de France l'assistance de toute une armée. Là-dessus, le roi lui ordonna d'oublier et de pardonner. « J'étais vieux et inconsidéré, lui disait-il, et je ne savais pas ce que je faisais. Ce qui est certain, c'est que tu avais de graves raisons pour ne m'aimer point. Mais tes sœurs n'en avaient aucune. » « Non, répondit simplement Cordelia, je n'avais aucune raison de vous haïr, et elles n'en avaient pas davantage. Mais laissons ce vieillard au bon soin de cette fille aimante et dévouée. » Le sommeil et les remèdes intelligents eurent enfin raison du désarroi où l'avait jeté la cruelle conduite de ses autres enfants, et rétablirent l'harmonie dans ses facultés ébranlées. Que faisaient pendant ce temps Rican et Gonril? De pareils monstres d'ingratitude, si perfides envers leur père, ne pouvaient être qu'infidèles épouses. Elles se fatiguèrent bientôt de sauvegarder même les apparences et affichèrent publiquement leurs illicites amours. Toutes deux s'étaient éprises d'Edmond, fils naturel du comte de Gloucester, dont il avait traîtreusement accaparé l'héritage, après avoir réussi à faire déshériter le fils légitime, son frère Edgar. Devenu comte à la suite de scélérates intrigues, cet homme sans honneur devait être compris et aimé d'aussi viles créatures que Gonril et Regan. Aussi, le duc de Cornwall, mari de Regan, étant venu à mourir, celle-ci déclara aussitôt son intention d'épouser ce comte de Gloucester. Alors Gonril, à qui ce misérable avait aussi maintes fois juré un éternel amour, trouva dans sa fureur jalouse le moyen d'empoisonner sa sœur. Mais elle ne put le faire sans être découverte, et son mari, le duc d'Albany, instruit de sa coupable passion pour le comte Edmond, la fit jeter dans une prison où elle mit fin à ses jours, dans un accès de rage et d'amour déçu. La justice de Dieu avait eu enfin raison de ces deux filles sans cœur. Mais les voies de la Providence sont mystérieuses, et il n'est que trop vrai que l'innocence et le dévouement ne réussissent pas toujours sur cette terre. Au moment où il applaudissait à la fin tragique et méritée de ces deux femmes, le monde fut frappé d'étonnement à la nouvelle des mélancoliques destinées de la jeune et vertueuse Lady Cordelia, dont la touchante histoire semblait digne d'un tout autre dénouement. Ce furent en effet les forces de Goneril Regan, commandées par le méchant comte de Gloucester, qui l'emportèrent, et comme celui-ci ne pouvait souffrir qui que ce fût entre le trône et lui, il fit périr en prison la noble Cordelia. Ainsi le ciel prit pour lui-même, et dans la fleur de sa jeunesse, cette admirable et innocente femme, après l'avoir donnée au monde comme un éclatant exemple de piété filiale. Lear ne survécut pas longtemps à sa bien-aimée fille. Un peu avant sa mort, le brave comte de Kent, qui l'avait suivi pas à pas depuis les premières insultes de ses filles jusqu'à cette triste période de sa décrépitude, tenta vainement de lui faire comprendre qu'il n'était pas un serviteur vulgaire. La pauvre cervelle du moribond, usée par les soucis, ne pouvait saisir alors comment Kent et Caius n'étaient qu'une seule et même personne. Le comte jugea inutile de troubler ses derniers moments par des explications intempestives. Lear mourut donc sans avoir connu le dévouement de ce loyal sujet, qui lui-même ne résista plus longtemps aux atteintes de l'âge et aux chagrins que lui avaient causés les malheurs de son roi. Nous n'avons voulu raconter ici que les aventures de Lear et de ses filles. Nous n'avons donc pas à nous occuper de la vengeance que la justice céleste tira du misérable comte de Gloucester. Disons cependant que ces trahisons furent découvertes et qu'il fut tué en combat singulier par son frère, l'héritier légitime. Quant au duc d'Albany, mari de Goneril, qui n'était pour rien dans la mort de Cordelia et n'avait jamais encouragé le mauvais procédé de sa femme envers le roi Lear, il succéda à celui-ci et régna sur la Grande-Bretagne tout entière.